Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser inaugure une nouvelle semaine sur les ordalies qu'elle va commencer avec Raymond Verdier, anthropologue, qui va traiter de l'ordalie archaïque. L'ordalie est un mécanisme très ancien destiné à établir la vérité, une vérité qui va mettre fin à un conflit, une vérité qui va trancher une question cruciale, et elle le fait en consultant les forces surnaturelles. Si elle soumet à l'épreuve une personne, elle sera dite unilatérale. Si elle cherche à départager deux personnes, comme par un duel judiciaire, elle sera dite bilatérale. Elle se réalise au cours d'une cérémonie rituelle très réglée à laquelle le public est convié. Et les traces ou les réactions que l'épreuve laissera sur le corps indiqueront le verdict surnaturel. Alors nous allons commencer cette semaine avec Raymond Verdier, j'allais dire tout seigneur, tout honneur, parce que nous devons à Raymond Verdier de véritables sommes qui ont renouvelé et peut-être même structuré l'anthropologie juridique contemporaine, une série de livres sur le serment, une autre sur la vengeance, une troisième sur les justices de l'invisible, et aujourd'hui, Raymond Verdier travaille précisément sur l'ordalie.
Merci, cher ami, de m'avoir convié à cet échange avec vous, car c'est un sujet que vous connaissez bien aussi.
Et je ne suis pas sûr que les auditeurs le connaissent très bien, Raymond.
Alors, on va essayer d'être assez simple.
Exactement.
On est en face d'un sujet qui est immense, qui est infini, j'allais dire. Il nous envoie d'un côté, du côté du tout autre.
Du transcendant.
Du tout cosmique. Le tout autre, ça peut être le tout cosmique en particulier.
C'est ça, ce n'est pas nécessairement le transcendant.
Justement, on va revenir si vous voulez, parce que je fais très attention à ces notions. D'un côté le tout autre, et de l'autre la personne intime dans son cet autre infini, l'infini de la personne, dans sa dignité, dans son honneur.
Ouais. C'est ça. Et alors, c'est pour ça qu'on verra au cours de cette semaine que les pratiques ordaliques n'ont pas cessé, et on peut retrouver des traces de sens dans les conduites contemporaines.
Tout à fait. Alors, c'est pour ça, pour vous dire qu'on est en face d'un sujet extrêmement vaste, et que de la plus haute antiquité jusqu'à ce jour, donc, les sociétés humaines ont inventé différents types d'épreuves physiques, bien sûr, à risque mortel ou potentiellement mortel, hein, en l'absence de preuves visibles, et appelle donc aux puissances de l'invisible. J'évite de parler de surnaturel.
Pour revenir
sur la notion de nature.
Qu'est-ce qui vous gêne dans le surnaturel?
Parce que justement, dans certaines sociétés, là, il n'y a pas de surnaturel. Si vous voulez, plus exactement, la nature qu'on inclut le surnaturel. Ah, c'est ça qui est très important.
On est déjà dans une distinction occidentale entre la nature et le surnaturel.
Et oui, d'ailleurs c'est un mystère le surnaturel dans l'Occident.
Bien sûr.
Donc pour ça je préfère parler, comme d'ailleurs des gens dont je vais citer le nom, les puissances de l'invisible, pour dire le juste et le vrai, révéler le mal, les injustices, la violence, innocenter des victimes qui ont été l'objet d'accusations mensongères, punir les coupables de transgressions majeures, celles de transgressions occultes, donc comme la sorcellerie.
C'est ça.
L'inceste, souvent, ce sont des transgressions qui, on le verra souvent, ont un impact sur la nature, en tant que la nature risque d'être polluée par ces transgressions.
Vous disiez que dans presque toutes les sociétés, on ne retrouve pas des ordalies dans toutes les sociétés, Raymond Verdier.
Ce qui va être intéressant, parce qu'on s'en est cherché. Oui. Au début, je me disais, il y en a partout.
Oui. Bon,
c'est une bonne démarche, si vous voulez. Mais j'aurai l'occasion de montrer que justement, dans l'Égypte pharaonique, il n'y en a pas. Je vais vous dire pourquoi. À la suite des travaux de Bernadette Menu, qui reste une grande autorité pour moi dans le domaine de la justice, du droit égyptien. Donc c'est le serment là, la parole du serment.
Et pourquoi s'il n'y a pas d'ordalie à votre avis?
Alors, je vais, si
d'accord,
vous voulez, peut-être par la suite, vous en toucher un mot.
Oui.
Hein. Alors, ce que je voudrais dire là pour terminer avec ce début, qu'il nous faut donc appréhender les ordalies d'une façon pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, selon une approche comparative qui soit d'abord philosophique, anthropologique, historique, linguistique, sociale et culturelle. J'insiste bien sûr
La culture englobe tout cela.
La dimension culturelle qui reste évidemment très importante.
Alors, des ordalies archaïques, vous disiez. Vous ne dites pas primitives, vous ne dites pas anciennes.
Oui, encore que, bon, là, je vais justement évoquer le nom d'un philosophe qui est devenu anthropologue, Lucien Lévi-Brulle. Hein,
qui est une sorte de père fondateur de l'anthropologie française.
D'une certaine anthropologie, oui, hein, c'est ça. Bon, oui. Et qui a été un peu éclipsé. Donc, maintenant, on redécouvre, depuis, grâce aux travaux de Frédéric Keck, on redécouvre l'importance de Lucien Lévi-Brulle. Et donc, qui, philosophe d'abord.
Est-ce que c'est pas précisément parce qu'il parlait de la mentalité primitive Raymond oui. Verdier et qu'aujourd'hui la sensibilité de notre époque fait qu'on accepte
oui,
tout cela.
Oui, ça pesait beaucoup, surtout qu'il a parlé à un moment de mentalité prélogique. Alors ça, d'ailleurs,
ça.
Il avait rejeté après cette notion de prélogique, estimant que c'était une logique autre et non pas pré.
C'est ça. Il a été aussi un peu éclipsé par le structuralisme et par Lévi-Strauss.
Oui. Oui, oui, mais ça, c'est très clairement, et Lévi-Strauss n'a pas été très gentil avec lui.
Bon, alors, bon. Donc les épreuves
Je reviens à Lucien Lévi-Brulle, parce que je tiens beaucoup à ça. C'est une chose qui est peu connue de lui, enfin peu connue d'un certain nombre de gens, qu'il était philosophe, il a enseigné l'histoire de la philosophie de la Sorbonne pendant 20 ans, et donc il a terminé en faisant une thèse sur l'idée de responsabilité en 83.
Oui.
Ouais, bon. Et alors là, il disait, c'est pour lui, la responsabilité, c'est important pour bien saisir la suite. La responsabilité est une pièce nécessaire de notre édifice moral, selon laquelle l'homme, en tant qu'il se croit un être raisonnable et libre, s'attribue une causalité véritable à l'égard de ses actes. Et donc, il disait, il y a deux types de responsabilités, l'une subjective et l'autre objective. Et comment arriver à...
Et alors, Dali va nous faire pencher du côté de la responsabilité objective.
Eh oui. Je t'aimais en disant... Et il posait la question. Donc, on est au moment où la cour d'assises commençait à se développer en France, etc. Comment juger un accusé d'après son mérite, sinon en contraignant sa conscience à avouer? De là, l'inquisition judiciaire. De là, torture de tous les procédés d'instruction barbares et injustes. Bon, c'est là justement où il va, déjà 20 ans avant de travailler sur les ordalies, il sentait déjà qu'il y avait un problème des ordalies, si vous voulez. Il n'en parle pas à l'époque. Bon, voilà. Donc, il fallait, alors, je le cite là d'une façon précise, il fallait faire toute vérité étant une vérité humaine, il faut faire place à l'infini, à la croyance et à la foi, qui trouve son fondement dans l'énergie morale de l'âme.
Oui, mais alors tout ça, Raymond Verdier, c'est un vocabulaire qui, je crois, nous parle plus beaucoup aujourd'hui. Quel lien vous pouvez faire entre l'ordalie? En quoi consiste une ordalie? Expliquez-nous.
Oui, j'entends bien. Mais il terminait en disant ceci. Il faut éveiller en nous, c'est la tâche du philosophe, le sens mystérieux du divin. Oui, on arrive dans l'ordalie pleinement, là. On est dans l'ordalie. Bon. Alors, par la suite, donc, il va écrire donc dans les fonctions mentales 10 ans après.
J'en reviens à ma question, Raymond Verdier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste une ordalie?
Je viens de vous dire, une ordalie, c'est une épreuve physique.
Alors, donnez-nous un exemple. Vous avez travaillé en Afrique.
Oui, pour être concret, donc, il y a toutes sortes d'ordalies par l'eau, par le feu, par l'air et la terre. Ce que je veux d'ailleurs montrer, c'est qu'avant tout, quand on parle de ces ordalies archaïques, elles sont des ordalies cosmiques qui renvoient aux quatre éléments. Et je vais revenir à la notion de quatre éléments qui est essentielle.
Oui. Bon, alors, donnez-nous un exemple d'une ordalie par l'eau.
Prenons le feu, si vous voulez. Le feu. Sur lequel Héraclite et d'autres, bien sûr, ont parlé. Mais je vais parler surtout d'avantage d'Empédocle qui, lui, avait conscience de la totalité des quatre éléments. Les quatre éléments, c'est un tout. Et moi, dans les films que j'ai faits, sur le feu, on voit les quatre éléments sont là. On parle toujours de l'ordalie du feu, mais le feu, voilà. Alors évidemment, je ne veux pas vous montrer un film que j'ai tourné.
Mais bon. Raymond Verdier, vous pourriez peut-être l'expliquer. Racontez-nous ce que vous avez filmé au Togo.
Oui, si vous voulez. Mais en trois mots, parce que ça demanderait le rituel que je filme. Ça dure trois quarts d'heure, donc je ne peux pas vous le résumer comme ça. Concrètement, ça consiste. Il y a deux personnes adverses, l'un accusateur, disons, l'autre l'accusé. Mais comme l'accusé nie l'accusation. Donc, il devient lui-même accusateur, si vous voulez. Donc,
Dans
une affaire de sorcellerie. La plupart du temps, c'est des affaires de sorcellerie où l'atto s'insu. Bon, donc, l'un accuse l'autre. Donc, il l'accuse d'avoir pratiqué des actions de sortilège, de sort, etc. Bref, donc, l'autre nie, d'où il y a dénégation. Hein. Donc, en fait, sa dénégation fait que il devient lui-même, si vous voulez, accusateur. Et alors, ce qui est intéressant, pour prendre l'exemple et ne pas l'oublier ensuite, des ordalies sur lesquelles je travaille, dites par le feu, mais qui sont des ordalies cosmiques, donc c'est que la personne qui accuse, donc l'autre, si elle accuse faussement, donc elle va être, en plongeant la main dans l'huile bouillante, elle va être brûlée. Et donc l'autre va être innocenté. Ce qui fait que il y a beaucoup de femmes, et là-dessus j'insiste beaucoup, parce que si je m'intéresse actuellement à la chose, c'est parce que on en pratique de plus en plus en Afrique actuellement.
C'est une pratique en recrudescence.
Elles sont extrêmement vivantes ces pratiques, sous des formes peut-être plus douces que le feu. Hein. On parlera beaucoup du poison, bien sûr, mais du poison, du breuvage toxique. Hein. Oui. Mais il n'empêche que ce qui est important là-dedans, c'est que donc l'idée, ça n'est pas que le feu va brûler la personne, c'est que le feu va purifier. On est dans une... Pour ça, je disais tout à l'heure, c'est important de travailler sur la langue. Comment est-ce qu'on appelle le mot ordalique? C'est un vieux mot germanique qui nous ramène autant des francs. Et vous voyez? Donc là, pourquoi est-ce qu'on a gardé ce mot? Alors que maintenant, il est bon de travailler sur le vocabulaire. Et dans la société où je travaille, au Togo, donc il y a deux termes. Un, inkwalakpesa, qui veut dire la dénégation. Oui, c'est celui qui dit. Ça, oui. Premier point. Et deuxième point, la purification. Donc,
c'est-à-dire que le rituel en lui-même va purifier.
Ah, le but, c'est ça, de réconcilier les gens, si vous voulez. Et comme il y a une souillure liée à la sorcellerie, qui est vraiment un acte le plus grave qui soit, si vous voulez, parce que ça nous renvoie plus ou moins à une sorcellerie satanique. À la limite, on n'est pas toujours dans Satan, mais il y a toujours un Satan quelque part, bien entendu. Oui, oui. Donc, vous voyez. Donc là, il y a cette idée de purification qui est essentielle.
Et donc, une continuité, c'est ça qui est intéressant, une continuité entre le corps physique de la personne qui va être éprouvée, qui va être mise à l'épreuve,
oui.
Et le corps social.
Ah, tout à fait. Oui. Oui. Et même, si vous voulez, alors là, je ne sais pas si on aura le temps d'évoquer cela, parce que j'avais prévu d'en parler assez longuement, c'est cette idée que les ordalies renvoient au mythe cosmogonique. Hein. On ne peut pas travailler sur les ordalies sans se référer au mythe de la création.
C'est ça, parce que je devrais dire, en fait, il y a une continuité entre la personne physique, le groupe social et le cosmos.
Et le corps du monde.
Le corps du monde,
exactement. Alors là, on a bon, il faudrait des heures pour en parler.
Le corps du monde, il est fait de quatre éléments.
C'est ça. Et si je prends un des mythes qu'on connaît en France, il a été étudié par de très nombreux, toute une équipe de gens depuis Marcel Griaul, n'est-ce pas? Oui. Germaine d'Eterlin, Calame, Geneviève Calame, etc. Denis Paulme également, enfin toute une équipe de gens qui ont travaillé sur ce mythe d'Ogon, depuis Hugo Temelli, je comptais en parler justement là un peu plus longtemps, mais on n'aura pas le temps. Donc là, Ama, le dieu, Dieu seul, Dieu souverain, est un dieu qui porte en lui les quatre éléments. Il porte en lui les quatre éléments et c'est dit.
Et donc l'ordalie consiste à prendre un de ces éléments,
oui.
Comme par exemple le feu ou l'eau.
Oui.
Mais alors le poison, c'est quoi le
alors,
liquide
le poison, le breuvage toxique. Hein,
breuvage toxique.
Là encore, si vous voulez, pour répondre à votre question, c'est alors les brûles, on a beaucoup énormément parlé, n'est-ce pas, donc du poison et c'est un peu. On s'étonne même qu'il n'est peut-être à l'époque on parlait moins du feu parce qu'il faut bien vous dire que à l'époque ça c'est un point important quand même on est au temps colonial dans les années 20 donc au nom de l'ordre public colonial tout ça était interdit.
Ah oui, le
poison était bon, c'était comme on donnait de plus en plus le poison non pas à la personne mais au poulet. Donc là, l'administration française n'avait rien à dire. On faisait mourir un poulet, c'est moins grave qu'une personne.
Mais pourquoi l'administration française interdisait-elle les ordalies?
Bon, parce qu'on pensait que c'était des coutumes barbares. Vous savez, même chez nous, au temps des Lumières, les livres autres, voilà.
On reviendra au temps des Lumières, ensuite. Bon. Mais donc, le breuvage empoisonné, alors quel est le mécanisme mental et social et anthropologique qui explique qu'on puisse faire une ordalie en faisant ingérer à une personne un breuvage empoisonné. À quoi ça renvoie le breuvage empoisonné?
Eh bien, si vous voulez, on parle d'une ordalie alimentaire, pas donc oui. Et on pense que si vous voulez la personne qui est sorcière a dans le ventre un organe qui va capter le qui va prendre le poison. pas. Donc, parce que la personne qui vague, qui ne va pas vomir le poison, elle est considérée comme
coupable.
La personne qui vomit,
Elle n'est pas.
Elle est innocente.
Elle est innocente parce qu'elle a rejeté le poison.
Elle rejette. Alors que l'autre, qui a cet organe, donc il va capter sur un organe vorace. Donc, il va garder cette voracité, fait qu'il garde le poison, et la personne, donc, est considérée comme coupable.
C'est ça. Et alors, c'est intéressant parce que dans l'ordalie médiévale, de l'eau froide, où on jetait quelqu'un qui était lié.
Oui, alors, là, vous donnez un exemple excellent, parce que si je parle maintenant en Mésopotamie, donc maintenant je parle du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc là, on a la fameuse ordalie fluviale, dans le Tigre ou dans l'Euphrate, donc, et ordalie dans laquelle, donc, la personne qui descend dans le fleuve est appelée à, alors, ou bien elle coule.
Elle coule.
Ou bien elle
est rejetée par l'eau.
Elle est rejetée, ou bien elle surnage, et donc, bon, alors, si elle coule, donc pas de problème, là, attention. Pas de problème. Et même dans cette ordalie fluviale telle qu'elle a été étudiée par Botero, donc on ne retrouve pas le corps tout de suite, mais le roi demande à ses soldats d'arriver à retrouver le cadavre, et le cadavre, quand on le trouve, le cadavre, il est brûlé. Autrement dit, là, on passe dans l'exorcisme. On peut pas parler aussi d'ordalie sans exorcisme. Vous voyez, c'est très compliqué.
C'est très compliqué.
Mais alors, chez nous, à Paris, parce que là, je suis dans le Tigre, dans le Phare, mais à Paris, au XVIIe siècle, encore, nous avons, donc, à la hauteur de l'hôtel de ville à Paris, là, à la Seine, les gens descendaient dans le, attachés, ligotés, etc. Et la personne qui coulait, bon, elle était innocente.
Oui, c'est ça.
Et la personne qui surnageait, la nature n'en voulait pas, on la rejetait.
C'est le contraire. Donc,
c'est le contraire, oui.
C'est le contraire, mais toujours cette idée que dans l'ordalie, on va essayer de faire que se correspondent deux éléments. Si je résume. C'est-à-dire que la personne qui est liée et qui est accueillie par l'eau, elle est accueillie par la nature, elle est approuvée en quelque sorte par l'élément aquatique, par l'eau. Alors que si elle est rejetée, on est dans quelque chose qui ressemble au suspect qui vomit, le poison. À chaque fois, c'est une affaire de correspondance. Il faut soumettre l'individu suspect ou la personne qui est censée incarner le mal pour voir qu'est-ce que le cosmos va dire d'elle. Est-ce que le cosmos va l'accueillir?
Voilà, exactement. C'est pour ça que je disais au début que il était important de penser ces transgressions dont la sorcellerie reste peut-être l'image la plus forte comme étant en même temps une atteinte, si vous voulez, à la nature, donc je ne dirais pas que la nature va se venger, enfin c'est pas le mot de vengeance.
Elle s'exprime, elle accueille ou elle rejette.
Elle rejette. Donc on est en face d'un problème de purification.
C'est ça.
Et mais des gens comme Godemet, même au médiéval, ont souvent souligné aussi la dimension pureté. Donc ce qui fait que maintenant on peut pas ne pas évoquer dans l'histoire occidentale. Vous savez que je vais évoquer quand même, juste hein, si vous permettez, bon, je pourrais en parler longuement, Rome était un gros problème, parce que depuis la lave des 12 tables, si vous voulez, donc 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, donc les ordalies, il n'y a plus les ordalies disparaissent.
Elles disparaissent ou elles sont interdites?
Elles sont interdites puisqu'on promeut les preuves rationnelles, donc ce ne sont pas des preuves dites rationnelles. Bon, par contre, oui, mais il n'y a pas que le jus civilé, il y a aussi le jus du Maximus Pontifex, le grand pontife, qui avait hérité des rois, donc ce pouvoir
magique.
Très important, magique, magique ou religieux.
Ce contact avec le surnaturel.
Voilà, oui, et donc qui a sous sa dépendance Vesta, qui est justement la déesse du feu. Alors donc, il y a eu tout ce... Et à Rome, vous savez que le feu tenait une place considérable, hein, le culte du feu, donc le feu domestique, feu républicain ensuite, si j'ose dire. Bon. Et donc là, les Vestales là, jouaient un rôle important. Elles entretenaient le feu. Le feu ne devait pas s'éteindre. Et si le feu s'éteignait, on dirait quand une famille disparaissait. Parce que la famille, au niveau domestique, si vous voulez, le feu devait être entretenu régulièrement. Et puis on faisait des sacrifices, et puis il y avait tout un rituel concernant le feu qui était très important. Et ces Vestales, qui étaient des prêtresses vierges, donc devaient entretenir le feu, prier pour le salut de la République, et si jamais elles commettaient
un adultère,
commerce sexuel, donc voilà, elles étaient à ce moment-là flagellées. Alors, certaines étaient accusées mensongèrement et demandaient à, justement, et c'est là où c'est intéressant, demandaient à subir une ordalie. Et on a deux cas qui ont été rapportés par Denis.
C'est-à-dire que l'ordalie pouvait... était encore au IVe siècle avant Jésus-Christ à Rome, oui, un moyen de prouver son innocence.
Mais même là, là on est au IIe siècle, ah oui, le, c'est en 225-228, il y a les historiens comme Denis qui en ont parlé d'une façon très précise. Et alors, je vais jusqu'au bout, parce que donc cette personne accusée, cette vierge accusée d'avoir commis, on parle d'inceste, mais oui, c'est pas l'inceste.
C'est pas l'inceste, ni l'adultère.
C'est ça, c'est d'avoir perdu la chasteté. C'est la ça. Chasteté. Hein. Bon, donc elle prie Vesta, la déesse du feu, et qui la conduit au Tibre. Donc elle quitte le forum pour aller au Tibre, et avec un vase percé, c'est-à-dire un crible, pour puiser de l'eau. Alors, donc, comme le crible est percé, donc bon, normalement l'eau
s'enfuit.
Donc cette vierge en question donc revient sur le forum avec le crible plein d'eau. Et donc là, elle est considérée comme innocente. Vous voyez, voilà, on a un cas extraordinaire.
C'est, ça, c'est extraordinaire parce que c'est en fait une épreuve.
C'est une épreuve, mais oui, ça lui permet, elle, de se sauver, parce que sinon, ensuite, la fin des vierges était terrible.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Raymond Verdier, anthropologue, qui nous parle des ordalies archaïques et qui a choisi de nous faire entendre David Bowie, Life on Mars. Là, on est vraiment dans l'infini, dans l'espace, mais on est dans le dans l'archéologie de la nature humaine et des sociétés anciennes. Alors il y a Raymond Verdier, il y a une société dont on n'a pas parlé quand même et qui est extrêmement importante, c'est la Chine.
Oui.
Est-ce qu'il y avait des ordalies en Chine ?
En Chine, il y avait des ordalies. Mais avant, je voudrais revenir sur cette notion de nature. Et justement, ça va être tout à fait lié à la Chine qui avait une conception de la nature très différente. Et je pense à Merleau-Ponty qui, pendant 20 ans, une quinzaine d'années au Collège de France, a enseigné sur la nature. Et pour retirer une de ses phrases importantes, il disait... C'est la nature en nous, les autres en nous, et nous en eux. La nature en nous et l'homme. Vous voyez. Donc, l'homme fait partie de la nature. Il le disait d'une façon plus philosophique, si vous voulez. Et il avait cette formule, naître, c'est à la fois naître du monde et naître au monde.
C'est tout à fait ce qu'un Africain aurait pu dire, celui des cabiais que vous avez utilisé au Nord Togo.
Il dit ça. Et ensuite, alors maintenant, pour citer quelqu'un donc, qui occupe la chaire anthropologie de la nature, justement, donc depuis 2001, Philippe Descola, qui écrivait dans sa leçon inaugurale au Collège de France en mars 2001, « Bien des sociétés dites primitives n'ont jamais songé que les frontières de l'humanité s'arrêtaient aux portes de l'espèce humaine. » Il invitait donc l'anthropologie à inclure dans son objet, bien plus que l'anthropos, toute cette collectivité des existants, il l'appelle les existants, liés à lui. Il nous invitait donc, nous, jeunes, au nom d'un universalisme relatif, à mieux comprendre les différents régimes d'humanité.
Ça veut dire que Laure Daly, Raymond Verdier, c'est quelque chose qui sollicite cette continuité entre l'homme et la nature. Exactement. C'est ça l'argument.
Alors, je vais donner un bel exemple. Vous parlez de la Chine. Eh bien, Marcel Granet, qui a écrit 5 ou 6 volumes sur la Chine, linguiste, sociologue, historien, enfin, une culture magnifique, disait ceci. La représentation que les Chinois se font de l'univers dérive d'une croyance extrêmement tenace. L'homme et la nature ne forment pas 2 règnes séparés, mais une société unique.
Oui, mais alors...
Qui est à l'origine des catégories sociales. Et donc, je vais vous donner un exemple précis. Avant que la divination par l'écriture ne prenne la relève, il y avait une divination par le feu. Donc, la tortue va selon les écailles de la tortue, donc on va déjà pouvoir faire des présages, vous voyez. Bon. Mais ce qui est le plus intéressant, pour revenir à votre question, c'est donc le bélier. Hein, le bélier, c'est pas le bouc. Hein.
Oui, le bélier. Oui. J'attends le rapport avec Laure Daly.
Le bélier apparaît, il le dit lui-même, un animal d'Laure Daly. C'est une phrase de Marcel.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Attendez une seconde. Un symbole de justice. Bon. Quand 2 plaideurs ne cessent de se quereller, le prince décidait, on est dans la Chine ancienne. Le prince décidait qu'ils iront présenter un bélier sur l'autel du dieu du sol, dieu de la terre. On commence par prendre au bélier du sang pour humecter la terre. Mm-hmm. Bon. Chaque partie lit un serment. Et là, vous voyez, c'est important parce que le serment est toujours présent dans Laure Daly. Et c'est une des choses qu'il faut souligner parce que là-dessus, Lévi-Bruhl avait peut-être on en reparlera, Henri Lévi-Bruhl. Chaque partie lit le serment où elle se déclare non coupable. Non coupable. L'une d'elles ne peut achever de lire son serment. Le bélier jette sur le tertre l'auteur du faux serment et le frappe à bord. Donc le bélier a vraiment l'animal qui... Vous voyez, c'est quand même...
Oui, c'est ça. Alors en fait...
C'est pas le bouc. Hein.
Le bélier, c'était cet animal légendaire de justice qui était plutôt une licorne, à vrai dire. Qui avait une corne centrale.
Et
ce qui est très intéressant, Raymond Verdier, d'ailleurs, c'est que le bélier de justice... Alors donc, vous nous parlez de la Chine ancienne, d'une Chine avant l'écriture, extrêmement ancienne.
Oui.
Eh bien, cet animal légendaire de justice, qui est le bélier ordinaire, on le retrouve aujourd'hui dans les palais de justice chinois. On le retrouve figuré à la porte de la Cour suprême du peuple à Pékin. Ça montre la profondeur, comme si Laure Daly irradiait de son sens la justice moderne, la justice contemporaine.
Tout à fait. Mon cher Antoine Garapon, je suis tout à fait heureux de... que vous emboîtiez le pas dans mon sens là. Enfin,
parce que à vous entendre, Raymond Verdier, à vous lire, vous avez énormément travaillé là-dessus. Vous parliez des justices de l'invisible. La justice de l'invisible, c'est tout un emboîtement entre le serment et Laure Daly.
Tout à fait. Il n'y a pas Laure Daly, du moins dans le. Là, je peux le dire d'une façon. En Afrique, il n'y a pas Laure Daly sans serment. Parce que il y a un appel aux puissances de l'invisible. Donc cet appel, c'est un serment qui va prendre des formes différentes, bien sûr, hein, mais c'est toujours un serment.
Donc le procès archaïque, on pourrait dire quoi, l'équivalent fonctionnel du procès dans les sociétés archaïques, consistait à travers Laure Daly et la parole proférée cérémoniellement par le serment, consistait à interroger le cosmos, pour que le cosmos lui-même tranche là.
Tout à fait d'accord. Tranche
et qu'il puisse énoncer une parole de vérité. Foucault dirait, alors il était très loin de tout ça, mais dans le fond, c'est une forme de vérité, Laure Daly.
Tout à fait, oui. C'est une vérité, et alors justement sur laquelle, pour revenir à Laure Daly par le poison, que défendait d'ailleurs Lucien Lévi-Bruhl, le philosophe, qui est devenu donc anthropologue, qui a écrit 5 ou 6 ouvrages. Et donc, lui, il défendait, si vous voulez, beaucoup cet ordre d'Ali, parce qu'il disait que c'était le moyen pour des gens, des pauvres gens accusés de sorcellerie, souvent c'était des femmes qui étaient considérées comme sorcières, des moyens elles-mêmes de se protéger. Et là, je vais vous donner un bel exemple, c'est que il y a maintenant, dans les années 80, à peu près, donc j'avais vu des ordalies à partir de 62, mais je ne les ai pas filmées, j'ai commencé à les filmer beaucoup plus tard, en 97, mais là j'étais avec un de mes informateurs en train de travailler, et entre nous passe une personne, hein, qui était habillée modestement, et dans le quart d'heure qui a suivi, elle est revenue devant nous, passée devant nous, en grande tenue blanche. Et j'ai posé la question à mon informateur, je lui ai dit, mais comment se fait-il que cette femme maintenant... Il m'a dit, elle a été à l'heure d'Ali, elle a plongé la main dans l'huile bouillante, la main, les doigts, disons, dans l'huile bouillante, et elle a été innocentée. Donc maintenant, elle va au marché pour montrer qu'elle avait été accusée à tort. Vous voyez donc l'importance de ces épreuves ordaliques.
Mais alors, expliquez-nous, Raymond Verdier, vous avez filmé ces ordalies de l'huile bouillante. Et l'épreuve consiste à aller avec le bout des doigts chercher un anneau, je crois, dans le fond d'une calebasse d'huile bouillante.
D'une marmite, oui.
D'une marmite, bon. Oui. Comment est-ce que c'est possible?
Oui, alors évidemment, c'est une question que nous nous posons, mais pour eux, ça ne se pose pas, parce que c'est la foi. La personne qui estime qu'elle est innocente, elle y va tranquillement, il n'y a aucun problème. Et là, j'ai un de mes films où vraiment, c'est manifeste, quoi. Cette femme est accusée par une co-épouse qui veut se débarrasser d'elle, parce qu'elle elle n'a pas d'enfant, et elle est jalouse de l'autre qui a l'enfant, donc elle veut vraiment l'éliminer. Eh bien, l'autre... assurée de son bon droit, de sa confiante en elle et confiante en Dieu aussi, si vous voulez, parce que tout ça renvoie au Dieu, au Dieu qui voit tout, à Dieu omniscient. Ah oui, ces gens ont une foi. On a souvent très mal compris. On a parlé de religion totémique, animiste, tout ça. C'est des mots, mais il y a toujours ce Dieu unique, souverain.
Et donc, elle y va sans se soucier, elle est sûre de réussir.
Ah, mais elle, il n'y a aucun problème, elle a pris tranquillement, elle ne s'est pas pressée, alors que d'autres ont peur, on les voit un peu dedans. Elle plonge tranquillement la main dedans, retire l'anneau, le déposer dans une calebasse, c'est tout un rituel compliqué,
c'est un rituel.
Faut pas jeter l'anneau n'importe où.
Bien sûr. Alors, c'est un rituel très compliqué, à laquelle tout le monde est confié.
Le public qui veut assister, c'est pas interdit du tout.
C'est ça. Et il y a beaucoup de monde qui assiste?
Pas tellement, c'est dans la montagne, c'est des montagnes, même assez. On y va assez difficilement. Enfin.
Mais alors, vous qui avez tellement travaillé sur l'épreuve et sur l'épreuve au pluriel, c'est quand même une preuve irrationnelle, alors, Raymond Verdier.
Alors, justement, j'en viens quand même à évoquer, on ne peut pas ne pas évoquer quand même Henri Lévi-Bruhl, le fils de Lucien, qui disait qu'il devait tout à son père d'ailleurs, et qui ne craint pas de dire... en parlant des messages, il parlait des puissances surnaturelles, il disait, pour une partie de l'humanité, la perception mystique, il remplit le mot de mystique, qui était précisément le mot important pour son père, n'est pas moins vraie, moins contraignante, bien le contraire, que la perception sensorielle. Oui. Opposer la perception des sens et la perception mystique.
Ouais. Mais le rationnel là-dedans, Raymond Verdier?
Rationnel, c'est une rationalité.
Vous êtes juriste, vous avez été avocat.
Mais absolument, oui. Mais le rationnel, si vous voulez, c'est que bon, ça n'est pas dit du tout penser qu'il y a du trucage. Non, c'est fait par des gens parfaitement honnêtes et qui ont conscience qu'ils ne font que transmettre une tradition.
Est-ce que
j'allais dire surtout là, c'est quand même un point important, ceux qui manipulent le feu, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui sont en rapport avec les forgerons. Or, le forgeron, dans toutes les grandes mythologies africaines, il descend du ciel. Oui, donc là. Oui, c'est là. Je parlais de l'infini, terre-ciel, mais il y a la communication entre les deux mondes. Hein. Eh oui. Et le forgeron est quelqu'un qui, dans la mythologie, aussi bien Dogon que la mythologie Cabier sur laquelle je travaille, c'est le forgeron, il est descendu du ciel. Oui. Or, le forgeron a un rôle essentiel, non seulement pour faire les armes pour la guerre, mais surtout les oratoires pour l'agriculture et tout ça. Donc, c'est un homme très respecté, craint et redouté aussi, le forgeron, vous voyez.
C'est ça. On peut pas dire que c'est un prêtre, mais c'est quelqu'un qui est en dialogue avec les forces
naturelles. Ce sont des devins.
Des devins.
Ah oui. C'est-à-dire que justement, alors là, vous posez bien la question, parce que tout à fait, quand cette cérémonie a lieu, donc que l'accusateur et l'accusé par trois fois, font leur déposition. Donc, l'officiant, hein, le devin officiant, il entend, il a son idée sur les gens. Hein, et donc, il peut, à la limite, favoriser un peu.
C'est ça.
Il peut.
Alors, voilà.
Oui, et pas. Bon, c'est selon que l'anneau est bien au fond de la marmite aussi, c'est le côté. Bon, voilà.
C'est ça. Donc.
Oui, mais il faut pas penser que, nécessairement, si vous voulez.
Ce que je voulais dire, Raymond Verdier, parce que c'est très important.
Pour revenir à la rationalité, vous voyez.
Ce n'est pas truqué.
Non, pas du tout.
Mais en même temps, le forgeron peut favoriser une partie.
Absolument. Et oui. Ah oui, oui. Oui. Et favoriser une certaine mesure, enfin. Voyez. Bon.
C'est ça.
Il peut pas avoir, il peut ne pas avoir une idée.
Bien sûr, mais alors, et ce sont des affaires, vous le rappeliez au début, qui sont des affaires qui concernent le monde invisible, qui concernent la sorcellerie.
Justement, parce qu'eux-mêmes, ils passent leur temps à dire « Ici, nous ne jugeons pas, c'est Dieu qui juge. » Et à ce moment-là, on lève la marmite vers le ciel, direction du soleil, et là, on dit « Dieu, toi qui vois tout, qui sort de chez le matin de chez le sel, le blancheur du sel, et qui va le soir au couchant. » C'est Dieu omniscient qui voit tout, et donc c'est lui seul qui peut
alors,
changer.
Raymond Verdier, qu'est-ce qu'il arrive à la personne qui rate une ordalie dans ce que vous avez observé chez les cabiais du Togo, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est désigné comme étant
à ce moment-là, justement, donc, effectivement, elle-même peut très bien ne pas savoir ou ne pas être consciente qu'elle a été habitée par un esprit mauvais. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent souvent, et on a un cas très intéressant dans lequel la personne doutait un peu, elle venait là pour bien savoir s'il était habité ou pas habité par le mauvais esprit.
C'est ça, parce que, donc on n'est pas dans un monde de la subjectivité, on n'est pas dans un monde où, de la subjectivité occidentale, contemporaine. Donc,
oui.
Elle ne se connaît pas elle-même, elle n'est pas sûre de ne pas être habitée par le démon.
Voilà, exactement, c'est ça.
Et alors, que se passe-t-il lorsqu'elle est déclarée habitée?
À ce moment-là, donc, elle est appelée à être exorcisée, si vous voulez. Donc, il y a des devins exorciseurs. Donc, elle peut, si elle a conscience d'être débarrassée de son esprit, ce mauvais esprit.
Mais ça veut dire que le sort qui l'attend n'est pas un sort terrible, parce que il y a quand même quelque chose de glaçant, Raymond Verdier, dans ce que vous expliquez, de ce que l'anthropologue explique, c'est que c'est une justice dont les modes sont, on dirait à notre point de vue, irrationnels, sont des modes magico-rituels.
D'une autre raison, d'une autre rationalité.
D'une autre rationalité, mais...
C'est-à-dire, vous voyez, si on raisonne cette idée que la nature inclut la surnature et toutes ces puissances invisibles, donc on ne peut pas dire qu'on est dans une autre rationalité.
Oui, mais Raymond Verdier, quand il s'agit d'un crime, parce que là vous nous dites c'est des affaires qui ont à voir avec l'invisible. Alors c'est vrai que la matière elle-même est très incertaine, mais dans le cas, parce qu'on va en avoir des exemples beaucoup, dans l'histoire et d'ailleurs sur lesquels vous avez également travaillé, dans lesquels il s'agit de véritables crimes et dans lesquels les conséquences de l'ordalie sur le corps de la personne soumise à l'épreuve peuvent être terribles.
Oui. Si vous voulez, donc c'est pas pensé comme une punition, c'est plutôt pensé comme une réparation, puisque maintenant j'ai eu le cas d'une affaire dans laquelle c'était des gens, ça se joue au sein de la famille souvent. La sorcellerie
c'est pas interfamilial,
c'est intrafamilial. Ouais. Et donc là, le but de tout ça, c'est de crever l'abcès.
C'est ça.
Donc c'est de réconcilier les gens.
C'est ça. Oui. C'est donc véritablement d'établir la vérité, une vérité de l'invisible.
On ne pense pas tellement au châtiment, on pense à la réparation.
Ah oui.
Ça, c'est très important. C'est ça. Et je cherchais quelqu'un, je voulais ne pas vous quitter sans évoquer ce grand chaman. Mmh. Ce grand chaman sicilien.
Oui.
Bon. Vous voyez peut-être ce que je veux dire, Empédocle.
Oui.
Empédocle, donc.
De l'Antiquité, quand même.
Voilà, Empédocle. Ah oui. On est là au 4e siècle, avant, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, Empédocle, oui, il est dans un pays des phénomènes volcaniques. Mm-hmm. La légende veut qu'il soit descendu dans l'Etna, etc. Ouais. Mais ce bonhomme, donc, il a écrit deux choses. Première chose, de la nature, et le deuxième, c'est des purifications. Mm-hmm. Et dedans, c'est un poète inspiré qui disait « Le feu, l'air, l'eau et la terre sont les racines de toute chose. » Donc, ça c'est le plus fort, pas, ni Parmenide ni Héraclite. Lui, c'est les quatre éléments, c'est les racines de toute chose. Bien sûr qu'il renvoie à des divinités. Ce sont les forces primaires actives, toutes égales et éternelles. Tout vient de leur réunion. Oui. C'est là où je les retrouve complètement.
C'est ça, c'est
quand
ça.
Je vous disais que mon organique du feu, c'est une organique cosmique.
C'est ça.
On est dans le cosmique. Et même, il ajoute que les fonctions physiologiques de l'être humain, donc il y a le feu et l'eau dans la respiration, dans la digestion, et dans la respiration, vous avez le feu et l'air.
C'est ça. Vous n'avez pas tellement parlé de l'air, parce que vous avez filmé aussi des ordalies de l'air. En Afrique.
Mais tout à fait.
Comment est-ce qu'on peut faire une ordalie avec de l'air, Raymond Verdier?
L'ordalie de l'air, c'est-à-dire que la personne est donc, on lui passe des petits balais autour du cou, et selon que les balais, qu'on les lie entre eux, ils se détachent ou pas. Donc si ça ne détache pas, donc on l'étrangle, si vous voulez, on la tire par terre comme ça, et on estime à ce moment-là qu'elle est. Mais c'est assez rare, ça. J'ai eu l'occasion de le faire une fois, ça.
C'est ça, de filmer une fois.
Oui, mais je ne l'ai pas montré, ce film.
C'est ça.
Oui. Parce que là, c'était pas. On avait affaire à un devin, qui essayait plutôt de montrer sa force. Et là, j'étais un petit peu.
C'est plutôt rassurant, ce que vous dites, Raymond Verdier. C'est-à-dire que même les devins sont des hommes, les devins.
Mais là, les devins qui font leur dernier par le feu, ils sont investis. C'est comme un prêtre chez lui, il est investi, il a un sacerdoce.
Dernière observation, Raymond Verdier, vous qui travaillez sur les ordalies, aussi bien dans le monde antique occidental qu'en Afrique, comment est-ce que vous expliquez la recrudescence des ordalies aujourd'hui? Quel lien?
C'est une vaste question, et il faudrait être très prudent pour vous répondre et nuancer beaucoup les choses. Mais ceci dit, ce que nous savons actuellement dans l'Afrique actuelle, c'est que la sorcellerie dans beaucoup de pays se développe d'une façon énorme. Donc, je pense, c'est une bonne question que vous me posez, parce que c'est encore une fois une façon de dire que les ordalies ont cette dimension archaïque, ont cette dimension quasi universelle, c'est parce que justement elles nous renvoient à la création de l'univers, si vous voulez, au mythe de création. Que ça soit dans le christianisme ou dans les cosmogonies africaines. Donc là on est vraiment en face.
Pourquoi est-ce qu'elle reprendrait de la vigueur aujourd'hui?
Dans la crise actuelle des sociétés africaines en particulier dont certaines vivent dans un état de délabrement, on a détruit beaucoup de leurs racines, justement leurs racines, voilà.
Merci beaucoup, Raymond Verdier.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Matière à penser, Raymond Verdier, Valérie Lavalard, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, je vous donne rendez-vous avec Robert Jacob, historien, où nous verrons le devenir des ordalies dans le monde médiéval et même après. Bonsoir.